Soyez les bienvenus, c'est le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une mortalité si forte qu'il n'y a plus assez de bois pour fabriquer les cercueils. La Polynésie française submergée par le Covid et son variant Delta. Le confinement doit y être prolongé, des soignants attendus en renfort. Témoignage dès le début de ce journal. L'état d'urgence déclaré à New York après des inondations impressionnantes cette nuit. Les restes de l'ouragan Ida, nous serons sur place. Au sommaire aussi, la rentrée masquée une nouvelle fois pour 12 millions d'élèves ce matin. Et les bleus du foot qui ratent leur reprise en qualification du mondial.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le rappeur L'Homme Pâle. Il est membre du jury révélation du festival du film américain de Deauville.
France Inter.
Et nous partons d'abord pour la Polynésie française, Alexis, où l'on ne voit pas le bout du tunnel.
Le variant Delta ravage l'archipel du Pacifique. Le confinement qui devait s'arrêter ce week-end sera prorogé, préviennent ce matin les autorités locales. Car les jours passent et la situation sanitaire reste catastrophique. Plus de 400 personnes hospitalisées pour Covid. Et cela se ressent aussi désormais sur le nombre de décès. La mortalité y est en ce moment 3 à 4 fois plus sévère qu'en temps normal. Béatrice Duguay.
Données macabres qui illustrent la gravité du drame sanitaire. Les pompes funèbres Minshew gèrent habituellement 40 à 70 décès par mois. Mais pour le mois d'août, le chiffre dépasse les 150 victimes. Nous sommes submergés de travail, raconte Poussity Mahou.
Lundi dernier, on a fait, on va dire, entre parenthèses, un record. Hein. On a eu 18 enterrements le même jour. C'est grâce à mes agents qu'on arrive à servir, à aller vers chaque famille pour que leur deuil se passe au mieux.
Toute la famille est mise à contribution pour assurer au mieux le service aux familles en détresse. L'entreprise a également embauché 4 personnes supplémentaires pour faire face. Le travail est moralement éprouvant, en tout cas, pour Poussity Mahou et ses agents funéraires.
On a eu plusieurs couples qui sont décédés le même jour. Ça devenait de plus en plus difficile parce qu'on les transportait au cimetière ensemble. Et on voyait les enfants, ça fait mal, hein, ça fait mal parce qu'on a des parents aussi. Et le fait de perdre deux personnes chères, papa et maman en même temps, c'est difficile. Hein.
Il faut expliquer les procédures aussi, pas d'exposition des corps, funérarium fermé, nombre de personnes limitées aux enterrements, des mesures pas toujours bien acceptées. Dernier indice qui témoigne de la violence de cette vague qui frappe Tahiti en ce moment, les entreprises de pompes funèbres de l'archipel arrivent à court de bois pour fabriquer les cercueils, obligées de se rabattre sur le contreplaqué.
Béatrice Duguay, la seule bonne nouvelle, c'est que la violence de cette vague épidémique relance la vaccination sur place. 110 000 Polynésiens ont déjà reçu au moins une dose, une centaine de soignants doivent arriver en renfort ce week-end. La Polynésie, où les écoles demeurent donc fermées pour l'instant, elles n'auront ouvert que quelques jours au mois d'août. En métropole, en revanche, c'est le retour en classe aujourd'hui pour plus de 12 millions d'élèves. Le cartable est prêt, la trousse bien remplie, il vous reste encore quelques minutes quand même pour éveiller les plus petits. Une deuxième rentrée scolaire sous Covid et donc sous protocole, niveau 2 sur une échelle de 4, ça signifie que tout le monde peut revenir à plein temps physiquement dans les établissements. En revanche, le port du masque reste obligatoire pour les enseignants et les élèves dès le CP en intérieur et dans certains départements en extérieur également dans la cour de récré. C'est le cas par exemple pour les collèges et lycées des Bouches-du-Rhône, aux grandes dames des premiers concernés, Fabien Ledu.
Inès qui entre en quatrième le sait, le masque à partir d'aujourd'hui, c'est...
Dans les classes et dans la cour, et à la cantine aussi.
Masque sur le visage, y compris à l'air libre, dans la cour du collège, Inès et Ismaël ont du mal à comprendre.
Je comprends pas parce qu'on a l'air libre et personne ne se colle. Sur les bancs, il y a des croix, chacun assis à sa place. On comprend en fait les distanciations, etc.
On est assez espacé dans la cour, parce qu'elle est assez grande.
Difficulté à parler, chaleur, irritation, buée sur les lunettes. Pour Rémi, qui est atteint de cardiopathie, cette rentrée en quatrième s'annonce pénible.
Tu transpires, même des fois en classe, on est obligé de le lever pour respirer. Et en plus, il y a certains profs intransigeants. J'ai déjà eu une observation.
Florence, sa maman est plus indulgente, mais elle aimerait qu'un protocole soit adapté à son fils.
Il doit mettre le masque parce qu'il est à risque, mais d'un autre côté, ça l'empêche beaucoup de respirer. Ça lui crée des allergies, ça lui fait des irritations au nez, il saigne tout le temps. Des fois, c'est un peu compliqué pour lui.
Pour le mouvement des parents d'élèves des Bouches-du-Rhône, cette mesure qui s'applique au collège et au lycée, mais pas aux écoles, est incohérente.
Fabien Leduc, le gros changement à l'occasion de cette rentrée, c'est aussi la vaccination, bien sûr, possible à partir de 12 ans, et une nouvelle règle. Au collège et au lycée, lorsqu'un élève sera positif, seuls ses cas contacts non vaccinés devront s'isoler. Les autres pourront rester en classe. Les Bouches-du-Rhône, on y reste, puisque c'est à Marseille que le chef de l'État vivra cette rentrée scolaire, dans une école du 13e arrondissement. Les écoles marseillaises qui seront au cœur des annonces présidentielles pour la ville, au deuxième jour de la visite des Emmanuel Macron sur place. Près de la moitié des établissements nécessitent des travaux urgents. Ça coûtera au moins 1 milliard d'euros selon la mairie. Marseille en grand, c'est le nom du vaste plan d'urgence que doit dévoiler le président cet après-midi. Hier soir, il a déjà fait quelques premières promesses aux forces de l'ordre. 150 millions d'euros pour un nouvel hôtel de police et des renforts qui arriveront plus vite que prévu. Ce sera l'un des événements politiques de la semaine, dimanche sur France Inter, le premier débat des candidats à la primaire écologiste. 5 candidats en l'occurrence, Delphine Batteau, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Éric Piolle et Sandrine Rousseau. Du côté des électeurs, 30 000 inscrits à ce jour. Chez Europe Écologie, on espère dépasser le record de 32 000 participants, c'était en 2012. Oui, car les primaires, c'est une tradition chez les Verts depuis 20 ans, mais l'exercice ne leur a jamais vraiment réussi jusqu'à maintenant, Anne Swintmont.
La malédiction commence en 2001. Première primaire, Alain Lipiet se l'emporte. Mais après une déclaration controversée, il est remplacé par Noël Mamer, qui sauve les meubles. Performance ternie par la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour.
La satisfaction que j'aurais pu exprimer devant vous en permettant aux Verts de franchir la barre fatidique des 5% est assombrie par le séisme politique que nous sommes en train de vivre.
2006, nouvelle primaire, nouveau psychodrame. Le second tour est tellement serré que les militants sont appelés à voter une deuxième fois. Dominique Voynet gagne de justesse pour ne faire qu'un 1,57% des voix, une douche froide.
L'écologie de combat, ça n'est pas l'écologie des coups bas.
Nicolas Hulot, en 2011, s'écharpe avec Eva Joly, donnant l'image d'un parti miné par ses divisions internes.
La caricature que tu fais de mes idées ne donnera à personne envie de voter pour moi.
La magistrate fera à peine plus de 2%.
Les urnes ont parlé.
Sonné, les écologistes s'interrogent. Faut-il coûte que coûte avoir un candidat à la présidentielle? À l'approche de 2017, la tentation est trop grande. Yannick Jadot est investi. Mais coup de théâtre, il se range avant le premier tour derrière Benoît Hamon, qui ne fera que 6,35% des voix. Pire score d'un socialiste à la présidentielle. Score jamais atteint par un écologiste passé par une primaire.
Anne Swetmont, service politique de France Inter. Le grand débat de la primaire écologiste, c'est donc à vivre dimanche sur Inter à partir de midi. À New York, il n'a fallu que quelques heures pour semer la pagaille. Des trombes d'eau se sont abattues sur la ville cette nuit, provoquant des inondations très impressionnantes. Ce sont en fait les restes de l'ouragan Ida qui a touché le sud des États-Unis en début de semaine. Le gouverneur de New York déclare ce matin l'état d'urgence. Sur place, les précisions de Loïc Loury.
L'intégralité du métro new-yorkais à l'arrêt, des torrents dans les stations, des voitures sous l'eau, des rues et des caves inondées et un état d'urgence décrété par le maire de la ville. New York a vu s'abattre avec pertes et fracas les restes de l'ouragan Ida. Pendant des heures, des trombes d'eau ont balayé la région, des tornades ont aussi été observées dans les États voisins, avec une alerte également en vigueur pour New York. Abritez-vous maintenant, mettent en garde les services de la métropole, les débris volants seront dangereux pour ceux qui ne sont pas en sécurité. Parmi les scènes observées dans la soirée, un court de tennis portant couvert, inondé à l'US Open, ou l'aéroport de Newark, dans le New Jersey voisin, totalement à l'arrêt. Après le passage d'Henri il y a 10 jours, New York fait encore la preuve de la vétusté de ses infrastructures. Loin d'ici, la Louisiane est toujours plongée dans le noir après le passage du même ouragan Ida. Le président Joe Biden doit s'y rendre demain. New York, Loïc Loury, France Inter.
Toujours aux États-Unis, la Cour suprême vient d'offrir une victoire majeure aux opposants à l'avortement. Elle n'a pas retoqué la loi qui vient d'entrer en vigueur au Texas et qui bannit la quasi-totalité des avortements dans cet État. Le texte interdit d'interrompre une grossesse une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, c'est-à-dire après 6 semaines de grossesse seulement. À ce stade, beaucoup de femmes ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. Il n'est même pas prévu d'exception en cas de viol ou d'inceste. C'est l'affaire qui secoue la Côte d'Ivoire depuis le début de la semaine. Lundi, sur une chaîne de télé ivoirienne, à une heure de grande écoute, un animateur invite dans son émission un homme condamné pour viol et il lui demande d'expliquer, avec l'aide d'un mannequin, comment il s'y prenait pour abuser abuser de ses victimes. Indignation générale dans le pays, réaction outrée de personnalités, pétition. Le concours de Miss Côte d'Ivoire lui retire l'animation de la soirée prévue ce week-end. Et la justice n'a pas traîné puisque cet animateur télé vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis et 3000 euros d'amende.
Il est 7h40, les Bleus décidément n'arrivent pas, Alexis, à se remettre de leur échec à l'Euro il y a 2 mois.
Les hommes de Didier Deschamps ont encore déçu hier soir en match qualificatif du Mondial 2022, un partout face à la Bosnie-Herzégovine sur la pelouse de Strasbourg. Cédric Guillou y était pour France Inter.
On a vu hier soir des errements, des hésitations, de grosses erreurs individuelles. 2 mois se sont écoulés depuis la triste sortie de l'Euro pour l'équipe de France. Mais hier soir à Strasbourg, on a malheureusement retrouvé des Bleus dans la continuité de ce qu'ils avaient montré au cœur de l'été. Le sélectionneur Didier Deschamps.
On doit se satisfaire de ce match, mais qui n'était pas ce qu'on avait prévu. Après, vu le scénario, c'est devenu compliqué quand on a été réduit à 10.
Et effectivement, à 11 contre 11, les Bleus n'y arrivaient déjà pas. Alors imaginez, en infériorité numérique, après l'expulsion de Koundé au retour des vestiaires. Au final, un seul tir cadré durant la partie, une défense encore fébrile, un trio d'attaque qui se cherche toujours. L'équipe de France voulait rebondir pour ce match de rentrée. C'est raté. Hugo Lloris, le gardien et capitaine des Bleus.
Il y a de la déception parce que on souhaitait les 3 points, mais en même temps, voilà, par rapport à la physionomie du match, on va se contenter de ce point et préparer les 2 matchs qui arrivent.
Heureusement pour l'équipe de France, l'Ukraine a été accrochée hier soir au Kazakhstan. Les Bleus, toujours en tête de leur groupe, conservent donc 4 points d'avance sur les Ukrainiens dans ce groupe de qualification.
Cédric Guillou à Strasbourg, l'Ukraine que les Bleus affronteront dès samedi soir à Kiev.
Alexis Morel, merci.